Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère en forme en ce début de week-end. Bienvenue dans votre émission Conso du samedi matin de 9h15 à 10h sur RTL. Et aujourd'hui est un jour un peu particulier car nous fêtons la 100e de Nous voilà bien. Et oui, déjà. Alors merci à tous pour votre fidélité. 100 samedis matins passés ensemble, c'est quand même du plaisir. Chaque semaine, on apprend plein d'infos qui nous aident à être et à rester des consommateurs avertis. On ne déroge pas à la règle. C'est parti, place au sommaire. $4,5 millions de produits contrefaits ont été saisis en France en 2019. Comment s'assurer que l'on n'achète pas de contrefaçon? Réponse avec l'inimitable Armel Lévy, journaliste au service éco et conso d'RTL. C'est bientôt Noël et qui dit Noël dit sapin, bien sûr. Alors comment bien le choisir et l'entretenir? Suivez le guide Pierre Nesman, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique. Dans la famille, des recettes faciles qui plaisent à toute la famille justement et qui sont économiques, je voudrais le gratin. Comment réussir sa cuisson tous au fourneau avec l'inspirante Sonia Esguillan, cuisinière, auteure et journaliste. Armel Lévy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ce samedi matin. Vous êtes journaliste au service éco et conso d'RTL et dans un instant avec vous, nous allons parler des contrefaçons. Mais souvenez-vous, Armel, la semaine dernière, nous parlions avec Odile Pouget des tests antigéniques. C'était très éclairant, très intéressant et nous précisons d'ailleurs cette semaine que les infirmières libérales sont elles aussi habilitées à faire le prélèvement qui nous permet de savoir rapidement si nous sommes positifs ou négatifs à la Covid-19. Alors n'hésitez donc pas à vous tourner vers elle. Armel Lévy. Revenons donc à nos contrefaçons. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est quoi une contrefaçon?
Eh bien, une contrefaçon, c'est un article qui reproduit la marque et tous les éléments constitutifs de la marque. Le logo de la marque, la forme, les couleurs, pour semer la confusion et vous faire penser que c'est vraiment le modèle iconique de la marque. Donc il y a contrefaçon, et c'est un délit, quand il y a une vraie volonté de se faire passer pour la marque et de tromper le consommateur.
Mais alors, c'est quoi la différence avec, une imitation, par exemple, ou une copie?
C'est pas la même chose. Une copie, c'est plus approximatif. Il n'y a pas de nom de la marque. C'est, par exemple, écrit Charmel à la place de Chanel. Ça, c'est une copie. D'ailleurs, les grandes marques ne traquent pas les copies, ni d'ailleurs les modèles qui s'inspirent de leur création. Il y en a plein les vitrines et elles ne cherchent pas à les condamner. Non, elles traquent vraiment les contrefaçons, c'est-à-dire les produits qui veulent se faire passer pour elles.
Mais alors, donc, ce ne sont que les produits de luxe, en fait, qui sont concernés par les contrefaçons?
Non, pas tant que ça. Dans le monde, ce sont les médicaments, qui sont les produits les plus contrefaits. En France, on est épargné, on a de la chance d'avoir un système verrouillé en pharmacie. Mais en achetant des médicaments sans ordonnance sur Internet, là, vous pouvez vous faire piéger. Comment pouvez-vous distinguer une pilule blanche d'une autre pilule blanche? Et les contrefacteurs sont très agiles, ils s'adaptent avec la pandémie. Cette année, le trafic porte sur des protections, des faux masques, des faux gants, des faux tests, ainsi que sur des désinfectants, des antiviraux et des autres compositions à base de plantes. Donc, aucun secteur n'échappe à la contrefaçon. Le tabac, le vin, les smartphones, les pesticides, les produits chimiques.
C'est super dangereux, hein, les médicaments contrefaits. Ah oui, hein. Vraiment, on invite ceux qui nous écoutent à être extrêmement méfiants. Et j'imagine évidemment qu'il y a beaucoup de contrefaçons accessibles sur le net. Donc on n'achète pas ces médicaments sur Internet. En France, quelles sont les contrefaçons les plus courantes, si ce ne sont pas les médicaments? Alors
l'an dernier, 4,5 millions de contrefaçons ont été saisis par les douanes. En numéro 1, près d'un million, étaient des cosmétiques, des parfums et autres soins corporels. Devant l'habillement et les chaussures. Et devant les articles de sport, les maillots de foot, les chaussures de sport qui sont aussi extrêmement copiés, arrivent ensuite les jouets, les téléphones mobiles, mais aussi les pièces détachées. Les douaniers ont également trouvé des appareils électroménagers qui reproduisaient le logo des marques, des frigos. Le souci, Flavie, c'est que la France est le deuxième pays le plus copié au monde. Et une enquête menée notamment par la Cour des comptes révèle que l'année dernière, 4 Français sur 10 ont déjà acheté de la contrefaçon, mais sans le savoir, faisant s'envoler 10 milliards d'euros pour l'État et détruisant 40 000 emplois rien qu'en France. Dans l'Union européenne, la contrefaçon représente 83 milliards d'euros de perdus. Donc la contrefaçon menace notre économie.
Mais en fait, vous êtes en train de nous parler d'un vrai marché parallèle.
Ah oui, la contrefaçon, c'est 3,3% du commerce mondial. Et ce n'est pas un petit vendeur qui va de manière artisanale essayer de recréer un produit. Non, la contrefaçon est aux mains de réseaux criminels extrêmement organisés et qui se servent de la contrefaçon pour financer leurs autres activités illégales, à savoir achat d'armes, de drogue, prostitution. Parce que la contrefaçon est un délit finalement très peu puni et qui génère beaucoup de profits.
Mais les contrefaçons, en fait, Armel, c'est pas uniquement sur Internet. Vous nous disiez il y a un instant que 4 Français Français sur 10 achètent de la contrefaçon sans le savoir. Donc, ils y ont accès comment ?
On en trouve sur les marchés, dans les foires. Mais malgré tout, la contrefaçon a changé de dimension avec la mondialisation, Internet et les réseaux sociaux. Donc, les marchandises contrefaites sont quand même aujourd'hui majoritairement écoulées par le biais du commerce électronique. Aujourd'hui, si vous tapez « parfum pas cher » dans un moteur de recherche sur Internet, vous êtes quasiment sûr d'arriver sur des sites de contrefaçon. Les clients regardent une photo pas toujours fiable et la description technique plus ou moins détaillée, donc ils peuvent facilement se faire berner.
Comment s'y prennent les contrefacteurs pour éviter les risques de saisie ? Comment est-ce qu'ils arrivent à essayer de passer au travers des gouttes ?
Eh bien, pour ne pas se faire pincer par les douaniers, ils nichent leurs faux produits dans de petits colis. Donc vous commandez sur Internet et on vous livre directement. C'est beaucoup moins visible que d'acheminer de gros conteneurs avec des centaines de faux produits. Ils sont très malins et les douaniers doivent maintenant affûter leur flair pour trouver potentiellement les petits colis qui contiendraient la contrefaçon. Et je vais vous dire, ce n'est pas toujours facile de déceler une contrefaçon. Un horloger me racontait qu'il y a encore 20 ans, il voyait tout de suite la différence, notamment parce que la montre contrefaite n'avait pas le même poids.
Ouais.
Aujourd'hui, les contrefacteurs vont jusqu'à mettre des petits plombs dans la montre pour reproduire le poids. Donc parfois, il faut l'ouvrir pour reconnaître une contrefaçon d'une originale. C'est pour vous dire le degré de sophistication.
Et justement, quels sont les risques pour un acheteur ? Parce qu'on peut effectivement ne pas se rendre compte que l'on alimente le marché de la contrefaçon.
Alors, avant de parler des risques encourus aux yeux de la loi, il y a de vrais risques pour votre sécurité. Si je prends un parfum de contrefaçon, le flacon laisse penser que c'est celui de la marque, pas de souci. Mais ce n'est pas la même composition. Ils contiennent des neurotoxiques, pas chers, aujourd'hui interdits, donc ça permet de les écouler. Ils ne contiennent pas d'anti-allergènes et en plus, vous pouvez trouver un conservateur naturel qui ne coûte pas cher. C'est de l'urine animale.
Bon, alors là, Lévy, du parfum au pipi, c'est quand même une sorte de révélation dans Nous voilà bien. On apprend décidément énormément de choses. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, pour poursuivre cette conversation sur l'antenne d'RTL.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.
Au programme de cette centième de Nous voilà bien ce matin, les sapins de Noël avec Pierre Nesman, les gratins de toute l'année avec Sonia Esgulian. Mais pour l'heure, place à la contrefaçon.
C'est pas vrai, c'est pas vrai, ouais, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
Et c'est pas vrai, mais on s'en rend pas toujours compte, justement. On en parle aujourd'hui avec Armel Lévy, journaliste au service éco et conso d'RTL. Armel, vous nous parliez des risques pour notre sécurité, hein, justement, d'acheter des contrefaçons. Vous nous expliquiez il y a un instant que le parfum peut être effectivement du parfum doté d'un conservateur naturel qui ne coûte pas cher, c'est l'urine animale. Donc on peut acheter du parfum au pipi. Moi, je pensais aux enfants, parce que là, on arrive à la période de Noël. Les jeux et les jouets, là, est-ce qu'il faut faire très attention à ce qui circule ?
Ah oui, il y a énormément de contrefaçons sur les jouets. Donc, vous avez des normes européennes qui empêchent les peluches de se détacher normalement pour que les enfants n'ingèrent pas les pièces. Et là, le contrefacteur va zapper toutes ces étapes pour que ça lui coûte moins cher avec un gros risque pour les enfants. Donc, pour un acheteur, nul n'est censé ignorer la loi. Quelqu'un qui serait pris avec un produit de contrefaçon risque une amende qui équivaut à deux fois la valeur du produit authentique. Donc, pour une montre dorée à 5 euros achetée sur une plage en été, l'amende peut atteindre 20 000 euros.
Mais même quand il ignore que c'est une contrefaçon et qu'il a été arnaqué ?
Oui. Parce que je vous rappelle que 4 Français sur 10 se sont fait duper en achetant une contrefaçon sur Internet sans le savoir. Donc là, c'est la double peine. Non seulement ils ont payé le prix l'authentique, mais ils se retrouvent avec un produit de mauvaise qualité sans garantie et ils risquent une amende en plus, sans aucun recours.
Non mais attendez, mais justement à propos de recours, quand on se rend compte que le produit qu'on a acheté est une contrefaçon, on a bien un recours là dans ces moments-là ?
Malheureusement aucun.
Non.
Aujourd'hui, on ne peut pas se retourner contre les sites ou les vendeurs. Hein. Vous pouvez juste faire un signalement sur le site Signal Conso, la plateforme des services de la répression des fraudes qui vont enquêter et voir s'il est possible de remettre la main sur le vendeur. Mais justement, ça devrait bientôt changer. L'Union européenne va adopter la semaine prochaine, normalement, une nouvelle législation sur la contrefaçon. Parce qu'elle date de l'an 2000, à une époque où le smartphone n'existait pas, où Amazon n'était encore qu'une librairie en ligne. C'est pour vous dire à quel point la législation est obsolète. Donc ce qui est envisagé, on attend que ce soit confirmé, c'est d'avoir cette règle toute simple. Tout ce qui est illégal offline sera illégal online, c'est-à-dire qu'Internet n'est pas un monde à part, échappant aux mêmes règles que la vraie vie. Je m'explique. Jusqu'à présent, les grandes plateformes internationales disaient « Je ne suis pas responsable des contenus. J'accueille des vendeurs sur ma plateforme, mais s'ils mettent des contrefaçons, je n'y suis pour rien. » Et le consommateur ne peut pas se retourner contre le vendeur puisque de toute façon, il ne sait pas qui c'est, il ne le connaît pas. À l'avenir, la future loi devrait imposer aux plateformes un devoir d'information et de transparence vis-à-vis de ses vendeurs, quel que soit le pays du vendeur et quel que soit le réseau. Parce qu'aujourd'hui, des vendeurs sont parfois retirés d'une plateforme, mais après, on les retrouve ailleurs, sur Instagram par exemple. Donc normalement, à l'avenir, le consommateur et les marques elles-mêmes devraient être un peu mieux protégés.
Alors, si effectivement l'acheteur n'a pas de recours et il risque une véritable sanction, le vendeur, qu'est-ce qu'il encourt, lui?
Pour l'instant, il risque une cessation d'activité et une amende jusqu'à 300 000 euros et 3 ans de prison.
Bon, alors des conseils pour ceux qui nous écoutent, hein, Armelle, comment est-ce qu'on décèle une contrefaçon, je dirais?
Alors aujourd'hui, le prix n'est plus vraiment un indicateur. Un contrefacteur va cibler le vrai prix, tout simplement, pour faire passer son annonce comme du vrai et pour duper le consommateur final. Néanmoins, il reste quand même un bon indice, hein. Quand un prix est trop attractif, c'est louche. Quand on a l'impression de faire une excellente affaire complètement inattendue, souvent c'est plutôt une mauvaise affaire. Il faut aussi se demander si l'on trouve le bon produit au bon endroit. Si vous voulez acheter un sac de luxe, rares sont les sacs de luxe qui sont achetés sur les marchés ou sur les plages ou dans un magasin qui n'a pas d'autres produits de grande marque. Ça peut inciter à la prudence. Après, vous pouvez vérifier la perfection des coutures, les finitions, les étiquettes. Elles doivent être dans la langue du pays dans lequel on achète. Et si elles sont mal imprimées ou si elles contiennent des fautes d'orthographe, c'est un indice là aussi. On sait que 80% des produits contrefaits proviennent de Chine. Donc on n'a pas le même alphabet. Au moment de la retranscription, il est possible qu'il y ait des fautes de frappe. Sur Internet aussi, il faut être prudent. Vous ne pouvez pas vérifier en direct le produit, donc renseignez-vous sur le vendeur. Regardez un peu sur les forums, les commentaires. Quand vous avez un commentaire « j'ai reçu mon produit, c'est un faux », ça vous met la puce à l'oreille. Et vérifiez que le prix est bien affiché, toute taxe comprise, que les frais, date de livraison soient bien mentionnés. En fait, que le vendeur est bien un vrai professionnel, ce qui n'est pas le cas quand on est dans de la contrefaçon grossière.
Alors, quel est le moyen le plus sûr de les éviter, en fait? C'est d'aller dans les grandes enseignes?
Voilà, c'est d'acheter dans les grands magasins, les magasins des marques ou sur le site internet de ces marques ou des grands réseaux connus, on va dire. Ou autrement, de leur demander tout simplement la liste de leurs revendeurs agréés ou de leurs magasins de déstockage.
Eh bien, dis donc, nous voilà bien plus avertis grâce à vous, Armelle Lévy. Je vous remercie vraiment pour cette enquête très éclairante. Et puis, écoutez, je vous embrasse.
Moi aussi,
effectivement, vous êtes inimitable, Armelle. À très bientôt moi sur aussi, l'antenne d'RTL. Vous avez acheté votre sapin ou pas?
Oui.
Mais vous ne l'avez pas acheté déjà décoré?
Ah non.
Non, parce
non,
que ça existe.
C'est un plaisir de mettre les boules et les guirlandes.
On va en parler justement avec Pierre Nesman qui nous rejoint dans un instant. Je vous embrasse. À bientôt, Armelle Lévy sur RTL.
Mon beau sapin.
Appel et Noël avec mon grand-père, Tino Rossi. Bonjour Pierre Nesman.
Bonjour Flavie, bonjour à tous. C'est vraiment l'ambiance.
Bienvenue. Mais oui, vous êtes paysagiste, vous êtes rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique, rédacteur en chef de l'émission Mission Végétale diffusée sur M6. Bon, alors justement, les avantages et les inconvénients du sapin naturel, Pierre?
Eh bien justement, c'est le fait qu'on va se réunir autour de cet arbre finalement qui a une odeur particulière, qui a aussi une majesté. Vous savez, Flavie, c'est quand même un des arbres et non des moindres, hein. C'est le roi des forêts qu'on va accueillir à l'intérieur de la maison et qui va nous accompagner pendant toutes les fêtes de fin d'année. Alors c'est vrai qu'il a quelques inconvénients, il va perdre ses aiguilles et puis après son usage, il va falloir effectivement s'en séparer, c'est un petit peu triste.
Bon, on va se retrouver dans un instant, continuer à parler de ce sapin de Noël, savoir combien de temps on l'achète et puis on va revenir aussi sur le sapin artificiel parce qu'on ne sait plus maintenant. On nous dit d'abord que c'est une bonne idée, après on nous dit que c'est une mauvaise idée. Bon bref, on y reviendra avec vous. On est sur RTL, c'est Nous Voilà Bien, à tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.
Dans Nous Voilà Bien, aujourd'hui, ce matin, ce samedi, on parle du gratin avec Sonia Esgulian. Mais pour l'heure, on parle du sapin. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. C'est vrai que ça sent Noël, ça sent le bon sapin. On est avec Pierre Nesman aujourd'hui, qui est paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique. On vient de parler des avantages et des inconvénients du sapin naturel. C'est vrai que on l'a tous vécu, hein, les petites aiguilles qui tombent, ce fameux sapin que l'on est malheureusement obligé aussi de jeter. Enfin, on reviendra sur tout ça. On l'achète combien de temps avant Noël, là, le sapin? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le moment, en fait, en réalité, la Pierre Nesman, de l'acheter?
Alors oui, effectivement, la vente officielle des sapins, elle commence au mois de novembre. Et c'est vrai que la première quinzaine de décembre, c'est vraiment le moment où on va les acheter. Il faut savoir que la moitié des sapins vendus à cette occasion, hein, il y en a à peu près 6 millions qui sont vendus en France, eh bien, sont vendus au moment de cette première quinzaine. Alors, petit conseil, quand vous recevez un sapin, quand vous l'avez acheté, il est très souvent emmailloté dans un filet. On va le déballer pour que ses branches reprennent une forme naturelle. Et puis surtout que les aiguilles qui sont au cœur du sujet ne s'abîment pas. On va le garder peut-être avant de le mettre à l'intérieur, à l'extérieur ou dans une pièce fraîche et de temps en temps pulvériser le feuillage pour le maintenir dans un bon état de fraîcheur.
En fait, il existe beaucoup de variétés de sapins, non ?
Oui, il y en a beaucoup, mais il y en a quatre qui reviennent effectivement en avant. C'est le sapin de Norman, le grand sapin de Norman. Alors lui, il a des aiguilles vert foncé qui ne tombent pas, c'est son avantage. En revanche, il sent rien du tout, c'est un petit peu son inconvénient. Mais par contre, on va pouvoir le mettre à l'intérieur, il va tenir pratiquement pendant un mois. C'est le premier qu'on va pouvoir acheter. Ensuite, vous avez la bièce nobilis. L'obélis, qui est un arbre qui est beaucoup plus élégant parce que ses aiguilles sont vertes et légèrement argentées. Et puis, le gros avantage, c'est qu'il sent un mélange de résine et de citron. Ça, c'est intéressant. Oui. Il y a une variété qui est un petit peu récente, une essence qui est beaucoup plus récente, c'est l'Abies fraseri. Alors lui, il cumule l'avantage du Norman, il ne va pas perdre ses aiguilles et il va aussi avoir l'avantage du Nobilis qui va sentir très très bon, il va sentir le citron. Et puis enfin, pour terminer, on a le fameux Épicéa. Épicéa, c'est le traditionnel sapin de Noël. Il a une odeur de résine qui est vraiment très agréable, un feuillage un tout petit peu plus vert pâle. Oui. Mais en revanche, son gros inconvénient, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'il va perdre ses aiguilles. Donc c'est vraiment celui que l'on doit acheter en tout dernier et surtout mettre à l'intérieur au tout dernier moment avant de le décorer.
Et on l'achète où alors justement ce sapin ?
Alors aujourd'hui, il y a des sapins qu'on va trouver absolument partout, mais moi je vous conseille de les acheter chez des pépiniéristes, des horticulteurs ou dans une jardinerie. En fait, ce sont des établissements qui font le choix de commercialiser des sapins qui ont été produits et cultivés en France. Aujourd'hui, il faut savoir que 80% des sapins qui sont vendus sont français, ils sont produits en Bretagne ou dans le Morvan. Et c'est vrai que quand on va vers ces professionnels, on est sûr d'avoir une production qui est respectueuse de l'environnement. On peut en plus choisir aujourd'hui des sapins label rouge. Et là, c'est vraiment un gage d'une production parfaite.
D'accord. Mais en même temps, vous savez, moi, je ne peux pas aller dans le Morvan. En plus, alors, non seulement en ce moment, on ne peut pas véritablement se déplacer, on le sait bien. Et je pense aux citadins. Moi, j'ai tous mes fleuristes là en bas, qui en bas de chez moi, puisque je suis une citadine, une parisienne, qui propose de très jolis sapins aussi. On peut y aller.
Effectivement. Vous avez tout à fait raison et je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut soutenir ces fleuristes de quartier. Ils viennent de passer une année extrêmement difficile. Oui. Alors c'est vrai qu'ils ont des petites boutiques qui n'ont pas la possibilité de stocker beaucoup de sapins. Mais très souvent, quand on leur commande un sapin, eh bien ils vont le choisir avec amour, je dirais, comme si c'était leur propre sapin. Donc c'est à la fois extrêmement pratique de pouvoir les retirer effectivement au bas de chez soi. Et surtout, c'est un acte de solidarité pour cette profession qui a vraiment été mise à mal durant cette année 2020.
Vous savez, moi j'ai toujours mal au cœur quand on jette les sapins après, justement. Alors, on le privilégie en pot ou on le privilégie coupé ? Parce qu'en pot, c'est une autre histoire.
Alors, en pot, c'est une autre histoire. Et c'est vrai que ça partait d'une bonne intention. À l'origine, le principe, c'était de dire on va acheter un sapin et on va pouvoir le replanter dans son jardin.
Et puis, après, finalement, on se retrouve avec... plein de sapins dans le jardin.
Exactement, c'est-à-dire qu'au bout de 15 Noël, vous avez 15 sapins dans votre jardin. Vous imaginez, c'est plus un jardin qu'il faut avoir, c'est un véritable parc. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres inconvénients, l'encombrement et le poids du pot quand on doit le transporter. Mmh. Et puis il faut savoir qu'un sapin qui est en pot, lorsqu'on le met à l'intérieur pendant 10 jours, 15 jours, eh bien il souffre. Et finalement, eh bien c'est une solution qui sur le papier paraissait intéressante et qui en réalité, finalement, va encore laisser de très beaux jours devant le sapin coupé.
Ok. On vérifie bien la forme du sapin, c'est pas facile quand ils sont dans leur filet.
Évidemment, effectivement, il faut un sapin bien régulier, bien conique. Et moi, je vous conseille de faire le choix lorsque le sapin est déballé et de demander à ce qu'il soit réemballé après, parce que c'est toujours très difficile de faire le choix d'un sapin lorsqu'il est complètement emmailloté dans son filet.
Vous savez ce que je fais, moi, Pierre, depuis quelques années, je les choisis de plus en plus petits, mes sapins. Parce qu'au début, on veut un gros sapin Maus Cousteau. Et puis, au fur et à mesure, je trouve qu'on apprend un peu sur le tas. Quelle hauteur choisir ?
La hauteur, c'est vraiment en fonction de ses aspirations personnelles et c'est aussi en fonction de la taille de la pièce. En général, si vous avez une pièce assez haute, on a envie d'avoir un très très beau sapin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus le sapin va être haut, plus le sapin va être large. Et donc effectivement, si vous avez un séjour qui est pas très grand, que vous allez recevoir de la famille, eh bien évidemment que le sapin, plus il est large, plus il prendra de place, plus ce sera difficile de circuler autour.
Pierre, ça coûte combien un sapin ? Parce qu'on voit tous les prix qui circulent.
Alors ça va dépendre de la taille et de l'espèce. Alors, en moyenne, un sapin classique d'un mètre, il faut compter une vingtaine d'euros. Au-delà d'un mètre cinquante, on est entre 30 et 40 euros. Et pour les espèces un peu plus nobles, hein, le Nobilis, le Norman, que je citais tout à l'heure, il faut compter entre 25 et 30% de plus.
D'accord, donc c'est quand même assez cher. Justement, on en veut pour notre argent, on a envie d'en profiter. Est-ce que ça s'entretient un sapin de Noël? Comment est-ce qu'on peut le conserver le plus longtemps possible?
Alors oui, ça s'entretient. Quand il est à l'intérieur, déjà, on va le mettre éloigné d'une source de chaleur, un radiateur par exemple. On va pulvériser de l'eau sur le feuillage, hein, bassiner le feuillage pour justement réhydrater les aiguilles. Alors attention, quand vous avez des guirlandes électriques un petit peu âgées, il faut éviter de le faire. Maintenant, aujourd'hui, les guirlandes électriques, c'est vrai qu'elles sont intérieures-extérieures, donc il n'y a pas de problème. Et quand on a des guirlandes électriques un peu âgées, eh bien, on va mettre une bassine d'eau au pied du sapin, un seau d'eau, et par évaporation, l'eau va maintenir une atmosphère humide autour du sapin. Évidemment, dans ce cas-là, on fait attention avec les enfants en bas âge et les animaux domestiques.
Évidemment. Et qu'est-ce qu'on fait une fois que Noël est passé, ce sapin? On voit bien qu'il finit par faire un petit peu la tête, donc il faut bien qu'on s'en débarrasse.
Alors oui, on va s'en débarrasser. Aujourd'hui, Flavie, il faut savoir que 80% des sapins sont recyclés en France. On va produire du compost, du broyat, des matériaux de combustion. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment avoir ce geste civique. Le sapin, eh bien, on va le rapporter soit dans des jardineries, soit dans des magasins de décoration qui vous donneront des bons d'achat, ou alors on va le déposer dans des points de collecte. Il y en a de plus en plus dans les villes, dans les quartiers. On peut aussi le déposer dans une déchetterie, ou alors tout simplement, quand on a un jardin, eh bien, couper les branches, les mettre sur le compost, ou éventuellement protéger des arbustes un petit peu frileux avec ces branches de sapin. Donc vous voyez que finalement, ce sapin, on ne le met pas ni à la poubelle ni sur le trottoir. On va essayer de le recycler, c'est de lui donner une deuxième vie après sa mort.
Eh bien justement, on en arrive au sapin artificiel. Parce que alors là, on ne se pose pas la question de la vie ou de la mort du sapin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Alors, le sapin artificiel, effectivement, c'est une bonne et mauvaise idée. Alors, ça peut être une bonne idée parce qu'effectivement, malgré son coût élevé, eh bien, on peut le garder longtemps, à condition de bien le ranger. Il ne va pas perdre ses aiguilles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont des aspects qui sont assez proches, eh bien, des formes naturelles. Mais c'est une mauvaise idée au regard de son bilan carbone. Car si on voulait vraiment avoir un bilan positif, il faudrait les garder 20 ans. Or, la moyenne, c'est entre 5 et 6 ans. Et puis enfin, il faut savoir que les matériaux qui le composent, hein, les lieux où ils sont fabriqués, c'est d'autres continents, sont à leur acheminement, eh bien, ça fait souvent de très mauvais élèves pour la planète.
Ok, bon ben voilà, maintenant on en sait un petit peu plus. Merci beaucoup Pierre Nesman de nous avoir parlé de ce fameux sapin de Noël. Je vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous Pierre Nesman en ce samedi matin. Vous aimez les gratins?
J'adore les gratins, tartiflettes par exemple.
Ah, bah il en est une qui nous attend justement, c'est Sonia Esgulian. On va parler du gratin dans un instant avec elle parce que ça se décline à l'infini cette histoire. À tout de suite sur RTL. Merci.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Je vous le rappelle, dernière chance pour tenter de gagner ce matin une cuisine Xina d'une valeur, écoutez bien, de 5000 euros. Une cuisine de rêve Xina pour réaliser toutes vos recettes préférées pendant les fêtes. Alors pour vous inscrire, vous envoyez Xina au 74 900 par SMS, 75 centimes par SMS. Tirage au sort tout à l'heure dans RTL vous régale à 10h15 sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Merci d'être avec nous sur RTL. Bon, on s'est occupé de notre consommation. On sait maintenant lutter contre les contrefaçons. On s'est occupé de notre sapin de Noël. Maintenant, on va s'occuper de notre gratin.
C'est délicieux.
Remarquable.
Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait.
C'est moi qui l'ai fait. Ah bah oui, ça, Sonia Esgulian, on fait pas faire le gratin par quelqu'un d'autre.
Ah non, pas du tout.
Bonjour Sonia, merci
d'être bonjour avec Flavie, nous. Bonjour à tous.
On vous connaît, vous êtes cuisinière, auteur et journaliste. C'est vrai, on n'achète pas un gratin tout fait, c'est la recette facile et économique par excellence.
Ah non, bah oui, c'est trop facile. Puis en plus, comme vous le disiez, il y a toutes les déclinaisons possibles, donc c'est dommage de ne pas le cuisiner à sa sauce. Non, ça on et le fait quand même, maison.
C'est quand même juste la solution pour cuisiner les restes, le gratin, non?
Les restes, oui, alors pas que les restes, mais effectivement, c'est très pratique. Par exemple, quand il reste des légumes, moi j'aime bien faire que ce soit les légumes du couscous ou du pot-au-feu ou d'autres recettes. Les légumes sont déjà cuits, je vais les mettre dans un plat tout mélangé. Et puis après, je vais préparer une sorte de crumble sucré. Donc je vais mélanger du beurre ramolli, à peu près 80 grammes, 100 grammes de farine. Si on on veut changer avec la farine, on peut mettre aussi de la poudre d'amande, hein, si on veut varier les plaisirs. On met un peu de fromage, par exemple du parmesan, de la mimolette, du comté. Tout ça est bien mixé, on va du bout des doigts tout mélanger, un petit peu comme le crumble de pommes, hein, c'est exactement pareil.
Ouais, c'est ça.
On met ça sur les légumes. On enfourne et on laisse bien bien gratiner. Et on fait ça avec une salade verte et c'est top.
Et vous parliez justement des légumes. Parfois, moi, quand je fais des gratins, ils rentrent de l'eau, mais c'est incroyable, quoi.
Alors souvent, il faut, un, les cuire, les pré-cuire, parce que c'est compliqué, et les égoutter longuement. Moi, un de mes gratins préférés, c'est le gratin de chou-fleur que me faisait ma maman avec de la béchamel. Mais vraiment, la chose très très importante, c'est ouais. de faire pré-cuire le chou-fleur dans de l'eau bouillante salée. Alors moi, je conseille de mettre un bon croûton de pain rassis dans l'eau de cuisson. Ça évite les odeurs trop fortes, parce que quand on fait cuire du chou-fleur à la maison, ça sent partout, c'est une horreur.
Non mais si, ici dans l'eau et ça
marche terrible. Ça pue vachement moins. Donc déjà
génial.
Ça c'est top. Et quand on fait égoutter le chou-fleur, on le laisse bien égoutter longuement. Comme ça, quand on va mettre le chou-fleur dans le plat avec une petite béchamel, eh bien là, il ne va pas rendre d'eau et ça va être très onctueux, très gourmand.
Et si on veut un gratin moelleux, il y a une astuce ?
Alors le gratin moelleux, c'est le gratin bien riche. Donc forcément, le gratin, soit on le fait avec de la béchamel, soit on va le faire avec une bonne crème. La dernière fois, on parlait du gratin dauphinois. En fait, ce qui fait la qualité, c'est quand on utilise une bonne crème pas allégée qui va cuire tout doucement au four et qui va justement lier tous les ingrédients entre eux. Donc c'est forcément un petit peu riche.
Et comment je peux m'assurer aussi que mon gratin va avoir du goût ? C'est pas facile, je trouve, d'appréhender le gratin avant même qu'il sorte du four.
Alors justement, il faut que les premiers ingrédients, par exemple, il y a un gratin que j'aime beaucoup, c'est le gratin d'endive au jambon. Il faut soigner toutes les étapes avant de le mettre au four, en fait. D'abord, quand on va faire cuire les endives, c'est très important de les faire pré-cuire tout doucement dans une sauteuse pour bien bien les faire suer, qu'elles soient bien tendres et qu'elles perdent un petit peu leur amertume et qu'elles commencent à caraméliser. Moi, j'ajoute un petit jus d'orange quand elles ont quand elles sont tendres, qu'elles sont déjà légèrement colorées, hop, un petit coup de jus d'orange. Si on veut aussi, on peut mettre du miel et on va avoir ce côté caramélisé. Ça, c'est important parce que quand on va mettre ces endives, donc on peut les garnir avec du jambon, du fromage. Quand on va les mettre dans le plat avec la béchamel, eh bien là, on va avoir beaucoup, beaucoup de goût à ce gratin. Et ne pas oublier que la béchamel, c'est pas simplement assaisonner avec uniquement du sel, du poivre. Évidemment, on peut mettre de la muscade. On peut ajouter dans la béchamel, si on n'en a pas mis dans les ingrédients, on peut ajouter du fromage au tout dernier moment. C'est-à-dire que quand on a fini de cuire la béchamel, on retire la casserole du feu, on met un petit peu de fromage râpé, on mélange. Et là, on a une béchamel très goûteuse.
Ok, et justement, vous parliez de fromage râpé. Est-ce qu'on met systématiquement du gruyère râpé au-dessus du gratin ?
Pas forcément, parce que par exemple, moi je fais, comme vous le savez, j'utilise tous les restes et je fais beaucoup de chapelures parfumées. Je prends des chapelures, par exemple, je prends le pain rassis, il me reste des zestes d'orange, je fais une chapelure aux oranges, il me reste des tiges de persil, je fais une chapelure au persil. Et en fait, tout simplement, je mets mes légumes ou je mets mes ingrédients, je saupoudre avec cette chapelure et là on obtient ce qu'on aime, c'est-à-dire que on a du gratiné sur le dessus et ce qui est en dessous et reste très moelleux et très fondant.
Vous savez, moi, ce que j'aime, c'est quand c'est bien croustillant.
Ah oui, non, mais là, c'est
top.
Il y a
un truc pour rendre le dessus, la couverture du gratin super croustillante.
Alors, par exemple, une recette toute simple qu'on a oubliée. Avant, nos grands-mères, elles nous faisaient des purées et on les mettait dans un très grand plat. Et cette purée, elle était badigeonnée d'un jaune d'œuf et on la mettait au four. Et là, c'était top parce qu'il y avait cette croûte hyper croustillante et dorée, et en dessous la purée. Et celui qui était malin et qui était très gourmand, il savait qu'il fallait gratter tout le bord du plat, parce que c'est là que c'est très très bon. C'est là où on reconnaît les vrais gourmands.
Mais exactement, c'est là où on repère celui qui aimera cuisiner plus tard. Dernière chose, comment est-ce que je réussis la cuisson d'un gratin ? Je cuis à combien dans mon four ?
Alors, très important, il faut que tous les éléments soient chauds. Donc, comme beaucoup de cuissons, on commence à 180 degrés. Par exemple, alors dans la mesure du possible, si les éléments sont déjà cuits et froids, on les laisse sortis un petit peu du réfrigérateur. Sinon, par exemple, quand on a fait cuire nos choux-fleurs qui sont un petit peu tièdes, on fait cuire en moyenne, on va dire, allez, 20 minutes au four à 180 degrés. Et ensuite, on monte le four, alors on peut monter à 220, 230, on surveille évidemment la cuisson, et là on laisse gratiner. Alors très souvent, nos fours, je ne sais pas pour quelle raison, gratinent plus d'un côté que de l'autre. Alors on laisse 2-3 minutes, on ouvre la porte du four, on tourne un peu le plat, on relaisse 2-3 minutes, et ça fait une sorte de gratin bien uniforme, bien gratiné partout.
Oh là là, j'ai trop envie. Alors on n'a pas le temps ce matin, mais vous allez nous donner une recette, hein, évidemment, qu'on retrouve sur votre page Instagram. Évidemment, Sonia Ezou Gullian, et que l'on va retrouver sur les réseaux sociaux de Nous Voilà Bien, mais vous nous avez mis l'eau à la bouche et je vous en remercie. Et vous savez qu'on peut se faire des bisous aux odeurs de
gratin. Bah oui, évidemment, toujours
des bisous aux odeurs de gratin. Merci beaucoup Sonia Esgullion d'avoir été avec nous en ce samedi matin. Votre page Instagram et vos ouvrages, évidemment, c'est tout ce que l'on conseille à nos auditeurs. Merci à vous de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, vous pouvez réécouter cette émission sur RTL.fr et sur les plateformes de podcast dédiées. Quant à la recette du gratin de Sonia Esgullion, elle vous attend sagement sur les réseaux sociaux de Nous Voilà Bien. Il n'y a plus de cas. Allez, je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre, le magazine du partage et de la réflexion. Et la semaine prochaine, 9h15, pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. Profitez bien, prenez bien soin de vous. Passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Je vous embrasse.
Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.